Raymond de la Rose s'est éteint dans la nuit à Rome. Il avait 84 ans. RFI 9h10 dans quelques secondes à Paris.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, très heureux de vous retrouver pour, comme nous le faisons chaque samedi à cette même heure, revivre 7 jours d'événements avec la rédaction. Je vous devine de l'autre côté du micro. L'actualité nous conduira en Afrique après le flash et je choisirai quelques-uns de vos messages. Continuez d'ailleurs à nous écrire semaine.actu@rfi.fr. Parmi les faits de ces derniers jours, il y a la disparition mardi de Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Écoutez-le parler de l'évolution de l'organisation. C'était il y a quelques mois sur notre antenne.
Les Nations Unies passent par une crise extrêmement grave. Elle a besoin d'un renouveau. Le renouveau, c'est très simple. Au moment où elle a été créée, il n'y avait qu'un seul acteur, qui était l'État. Et il n'y avait que 50 États. Aujourd'hui, il y a d'abord 200 États et deux, il y a des nouveaux acteurs non étatiques qui sont plus importants que les États. Les organisations non gouvernementales, les unions parlementaires, les mouvements politiques qui ont besoin d'être représentés, si vous voulez démocratiser les Nations Unies.
Notez que demain dans Idées, nous vous proposerons une rediffusion d'une émission que nous avions consacrée à Boutros-Ghali en novembre dernier avec notre invité, le diplomate français Alain Dejamet. Et c'est la Turquie que nous allons mettre à la une de ce magazine avec notre invité Kadri Gürsel, l'éditorialiste vedette du grand quotidien turc Milliyet, licencié l'année dernière, il y a quelques mois seulement, pour avoir déplu au pouvoir. Vous êtes un des grands journalistes de Turc. Avec vous, nous allons faire un point de la situation très tendue pour le moins dans ce pays. Je pense à la Syrie, mais je pense aussi à la à Turquie en tant que telle. Bonjour Kadri Gürsel.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. J'ai profité de vos passages à Paris pour vous inviter dans cette émission. Il faut d'abord rappeler en quelques mots ce qui vous est arrivé. Vous avez été licencié pour un tweet qui n'a pas plu au régime. Tweet dans lequel vous écriviez ceci. Il est honteux que des chefs d'État étrangers appellent la personne qui est la principale raison du terrorisme de l'État islamique en Turquie pour lui présenter ses condoléances après l'attentat de Suruk. Il faut expliquer en deux mots ce qui est arrivé.
J'ai été licencié, à mon avis, pour le tweet. J'ai été licencié car je travaillais pour un journal, pour un grand journal, qui en fait était géré par un patron pro-gouvernemental.
Donc le journal, c'est Milliyet, voilà, c'est un des grands journaux.
Un grand journal du passé. Ouais. Milliyet, quand j'ai commencé à travailler pour Milliyet il y a 20 ans, c'était un grand journal d'une tradition bien établie en Turquie. Mais dans le temps, comme le pouvoir de Erdogan a bien décidé de faire taire la presse et de saisir la presse pour pouvoir bâtir son régime. Et Milliyet était une des victimes de cette opération, de nettoyage, il faut dire. Ouais. Et puis, je suis devenu vulnérable.
Alors, il faut préciser tout de suite, Kadri Gürsel, que vous avez envoyé ce tweet, ce fameux tweet, le 20 juillet.
Le 22 juillet,
deux jours après un attentat qui s'est déroulé,
qui s'est déroulé dans la ville frontalière avec la Syrie, la ville qui s'appelle Suruç, où 33 personnes, des gens militants, venus de plusieurs côtés du pays.
Des militants pour la paix.
C'était des militants de gauche, qui voulaient aller à Kobané pour contribuer à la reconstruction de la ville, dévastée par une guerre entre le Daesh et les Kurdes de Syrie.
Donc, ville qui avait été occupée Kobané par l'État islamique et qui avait été reconquise par les Kurdes.
Donc, 33 personnes ont été tuées. Et deux jours après, j'ai pas pu cacher ma colère en voyant les chefs d'État qui présentaient leurs condoléances à la personne qui était, à mon avis, constituait la première raison de cette dévastation qui provenait de la politique de Syrie, en fait.
La première personne, c'est donc le président Erdogan.
Oui, mais c'est à cause de la politique de Syrie qu'il menait depuis plusieurs années, tout en ouvrant le chemin à l'ascension de Daesh à cause de cette politique. Je dis pas que le régime en Turquie a délibérément organisé cet attentat, jamais. Je peux pas
dire. Parce que l'opposition vous a accusé d'avoir fait.
Voilà, tout à fait. Mais c'était la cause, c'était la politique de Syrie de M. Erdogan. Et cet attentat a été attribué au Daesh, comme les autres attentats qui ont poursuivi. Après, il y a eu deux autres énormes attentats qui ont bousculé la Turquie jusqu'au fond et qui ont changé le climat politique en Turquie avec des ramifications politiques très très importantes. Ces attentats à Suruç le 20 juillet, puis à 10 octobre à Ankara, qui a fait 103 morts, ont changé les équations politiques en Turquie car ces attentats tombaient dans le contexte du calendrier politique et de l'agenda politique de la Turquie.
Ça veut dire des élections législatives qui avaient été réorganisées.
L'attentat de Suruç avait été utilisé pour déclencher une nouvelle guerre contre le PKK. Et la Turquie est allée aux élections dans une atmosphère de guerre qui a servi aux intérêts du régime de Erdogan.
Puisque l'AKP a été le grand vainqueur de ces élections en...
Oui, mais quand il était le grand perdant des élections du 7 juin.
Ouais, quelques mois, pardon.
Entre 7 juin et 1er novembre, il y a 5 mois. Et en 5 mois, il y a eu un énorme déplacement de vote à l'AKP, qui avait alors perdu 20% de ses votes. Ouais. Au 1er juin, il n'a apporté aucune solution à aucun problème de la Turquie pendant ces 5 mois. Mais il a pu remporter une énorme quantité de votes. Pourquoi ? Pour le chaos, pour la peur de chaos et pour la peur de menace de terrorisme qu'on a créé après cet attentat.
Alors nous allons évidemment, grâce à vous, parler de la Turquie aujourd'hui et notamment de ce nouvel attentat à Ankara tout à l'heure. Alors avant de repartir pour la Turquie, Kadri Gürsel, arrêtons-nous en Haïti où le président par intérim a pris ses fonctions. Joslem Priver a investi président intérimaire d'Haïti après son élection par le Parlement dans la nuit de samedi à dimanche, a appelé dimanche précisément la classe politique à s'unir pour sortir de la crise qui paralyse le développement économique du pays. Port-au-Prince, Amélie Baron.
Après son élection qui s'est tenue au milieu de la nuit au Parlement, Joslem Priver a prononcé dimanche son premier discours de chef d'État dans les jardins du Palais National, encore non reconstruit, un discours qui appelle la classe politique au consensus et à l'unité.
Je vous invite non point à surseoir sur nos divergences, nos contradictions, mais plutôt à chercher à mieux les comprendre pour les dépasser, car elles sont le gage de notre développement, du renforcement de notre démocratie. Ce défi de fructification des divergences est à relever. Nous le relèverons ensemble. Cette situation exceptionnelle que nous avons vécue a eu le mérite de mettre à nu nos limites. La chronicité de nos crises politiques, jamais réglées, elle est également une opportunité que nous devons tous saisir. Et nous allons la saisir.
Résoudre les éternels conflits de la classe politique est évidemment un vœu pieux. Joslem Priver doit en urgence réussir à composer un gouvernement pouvant satisfaire la majorité des politiciens et aussi travailler à la reprise du processus électoral. Pour beaucoup d'acteurs impliqués dans la crise, il paraît clairement impossible qu'un président élu par les citoyens puisse prendre la relève d'ici 4 mois.
Sept jours dans le monde.
La Turquie, on y revient donc, Kadri Gürsel, 28 morts, des dizaines de blessés, c'est le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui s'est produit mercredi à Ankara, encore Ankara, correspondant ce jour-là d'Alexandre Billette.
L'attentat a été commis à l'aide d'une voiture piégée à 18h31 locale dans le quartier des ministères et de l'Assemblée nationale de Turquie qui se trouve à quelques centaines de mètres. Le quartier théoriquement le plus sécurisé, le mieux protégé du pays. C'est un attentat qui a visé véritablement le cœur politique de la Turquie. Le Conseil de sécurité turc s'est réuni en soirée en présence du président Recep Tayyip Erdogan. Le président Erdogan qui a annulé sa visite en Azerbaïdjan, tout comme le Premier ministre Ahmet Davutoğlu, qui ne se rendra pas à Bruxelles comme prévu. Le gouvernement turc qui a également imposé un blackout aux médias qui officiellement ne peuvent plus couvrir les suites de cet attentat en direct. Pas de revendication pour l'instant, mais deux pistes qui sont évoquées. D'abord, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui a rompu le cessez-le-feu l'été dernier. Autre hypothèse, l'État islamique, alors que la Turquie est directement impliquée désormais dans le conflit syrien.
Alors, Kadri Gürsel, nous allons reparler tout à l'heure de cet attentat et des pistes des criminels qui auraient causé cet attentat dans la deuxième partie du magazine. Mais que vous inspire cette nouvelle explosion à la voiture piégée qui a fait cette fois près de 30 morts?
Paradoxalement, ça me donne l'idée comment la Turquie est vulnérable par rapport à cette politique ambitieuse qu'elle poursuivit. Mais un pays dans lequel, dans le centre de son système nerveux, on peut commettre un tel attentat, c'est le quartier où on a commis cet attentat, c'est où se trouvent tous les quartiers généraux des armées, les ministères très importants. Et donc, ça me montre à ce niveau de perplexité où se trouve la Turquie. Et aussi, il y a des suspects naturels. Mais il n'y a pas un seul suspect naturel, il y en a plusieurs. Ça montre aussi à quel niveau de la complexité se trouvent ces impasses politiques qui font face ce pays à des menaces incontrôlable.
Alors, je me souviens d'une époque pas si lointaine, du début des années 2000, années durant lesquelles on parlait de la Turquie comme modèle, en quelque sorte, et on parlait de l'appartenance ou non de ce pays à l'Union européenne. Et en 2002, l'AKP donc a commencé à émerger sur la scène politique avec sa première victoire législative, et vous expliquez très bien dans ce livre qu'a commencé là une sorte de spirale infernale.
Oui. Erdogan et son parti avaient de la chance, car quand ils sont venus au pouvoir, la classe politique centrale était en faillite totale, idéologique, historique, à cause des cas de corruption, et à cause de la crise économique qui a ébranlé la Turquie. Et donc Erdogan était vu comme un espoir, une étoile ascendante de la classe politique turque. Mais grâce à ses messages qu'il donnait tout le temps, qu'il était changé, qu'il avait changé sa position vis-à-vis son passé islamiste. Donc, et aussi, il a fait des efforts pour convaincre ses électeurs et le monde et l'Occident aussi dans ce sens, en adoptant, en héritant plutôt les réformes de FMI que ses prédécesseurs avaient entamées, et aussi il a assimilé le dossier européen de la Turquie au moment. Et ça a vraiment créé un bouleversement positif dans les yeux des Européens, en créant un cadre de perception très positif.
Et vous expliquez très bien avec des exemples que au fil des années et de ses victoires, le président Erdogan, donc le premier ministre devenu président, a durci considérablement sa politique. Il l'a islamisé dans un pays qui était présenté même comme un modèle de laïcité.
Erdogan, c'est un caractère éclectique. Il peut être très pragmatique et opportuniste dans les dossiers qui sont des dossiers séculiers, ok, laïcs, on peut dire, comme l'Europe, les Kurdes, les Arméniens, la question de Chypre. Et à l'époque, ces questions, son traitement de ces questions, visait à convaincre les Européens. Et il a pu convaincre à cette époque. Et il nous manque des preuves pour son changement, car quand il a obtenu la date en fin 2004, de l'Union européenne pour entamer les négociations d'adhésion de la Turquie, il a arrêté les réformes. Il n'a rien fait à partir de cette date.
Et c'est à partir de là qu'il y a eu un changement considérable que vous expliquez. Nous allons rester dans la région, Kadri Gürsel. Il nous faut évidemment parler de la Syrie, évidemment, avec d'abord l'offensive de Damas soutenue par l'aviation russe et des bombardements meurtriers, une cinquantaine de victimes contre un hôpital de Médecins Sans Frontières dans le nord du pays, donc de la Syrie. Bombardement condamné par l'ONU, New York, Marie Bourreau.
C'est un nouveau signe de l'impuissance de la diplomatie occidentale devant la volonté des Russes de trouver une solution militaire et non plus politique en Syrie. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est en effet contenté de condamner ces tirs de missiles dans lesquels 50 civils, dont de nombreux enfants, ont trouvé la mort. Mais il n'a pas nommé la Russie, que des ONG syriennes accusent pourtant d'être à l'origine de ces bombardements. Le régime syrien, aidé des avions russes, pilonne en effet sans discontinuer cette zone du nord de la Syrie, autour des villes d'Alep et d'Idlib qui se trouvent toujours aux mains des rebelles. Avec résignation, l'ONU note que ces nouveaux affrontements jettent une ombre sur les engagements pris par le groupe de soutien international à la Syrie qui avait convenu lors d'une réunion à Munich d'une trêve qui devait rentrer en vigueur cette semaine. C'est donc dans ce contexte très tendu que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, est arrivé à Damas pour une visite surprise. Mais on voit mal comment l'émissaire onusien pourrait en repartir avec des avancées concrètes alors que le régime de Bachar al-Assad regagne du terrain et se trouve à nouveau en position de force pour négocier.
Régime soutenu, on le sait, par Moscou. Moscou qui menace de plus que jamais la Turquie. Kadri Gürsel, Moscou mardi, Muriel Bompon.
La Russie est fortement préoccupée par l'usage de la force par la Turquie contre le territoire syrien. C'est ce qu'a déclaré un diplomate de la délégation russe auprès de l'ONU. Les Russes en appellent donc à l'arbitrage des Nations Unies afin que le Conseil évalue clairement la politique provocatrice d'Ankara qui crée une menace pour la paix au Proche-Orient et dans le monde. Pour les Russes, Ankara soutient le terrorisme et continue à livrer de l'aide au groupe État islamique. Moscou met donc en garde la Turquie, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait à Munich. Le premier ministre russe avait alors parlé de risque de déflagration mondiale en cas d'intervention turque en Syrie. De plus, Moscou note que la Turquie a ignoré l'appel des Occidentaux, États-Unis et France, à cesser les bombardements sur les zones kurdes de Syrie. Dans ce différend entre la Russie et la Turquie, Moscou veut s'appuyer sur les Occidentaux qui sont très embarrassés face à l'attitude de leur allié turc. Les Kurdes ne sont pas à proprement parler des alliés des Russes et trouvent des soutiens à l'Est comme à l'Ouest dans leur combat contre le groupe État islamique, ce qui conforte la position russe à l'égard de la Turquie.
À noter aussi dans l'actualité internationale l'annonce d'un voyage de Barack Obama à Cuba les 21 et 22 mars prochains, ainsi que des négociations laborieuses entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur un nouveau statut particulier de ce pays au sein de l'Europe. On vous en parle bien sûr dans nos journaux. Nous continuons à en parler de la Turquie avec vous, Kadri Gürsel, pour votre livre intitulé « Turquie année zéro », le titre en dit long, dans une excellente collection qui s'appelle « Le point sur la table », publié aux éditions du CERF, ce livre. Dans ce livre, vous écrivez ceci: « La politique d'Erdogan vis-à-vis de la Syrie a consisté dès 2011 en la volonté acharnée de renverser le régime d'un pays voisin pour le remplacer par des forces considérées comme « amies », entre guillemets, c'est-à-dire islamistes et issues des frères musulmans ». Ça, c'est plus que jamais d'actualité.
Oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La Turquie exporte la crise syrienne en Europe avec le phénomène de Daesh et les réfugiés. Mais cette structure était déjà là en 2011.
Ah, c'est un double jeu. Hein. Vous dites donc ce soutien à l'État islamique, à l'organisation de l'État islamique, aux islamistes, pour un pays qui est membre de l'OTAN par ailleurs depuis 1952.
Oui, c'est un grand paradoxe. Pour le moment, cette ambiguïté, derrière cette ambiguïté, la Turquie a joué son jeu pour mener sa politique de changement de régime à Damas en ignorant consciemment la sécurité de sa frontière avec la Syrie pour y créer un passage libre aux djihadistes pour faire tomber le régime le plus tôt possible. Mais ce phénomène a causé la création et la fusion des deux éléments en Syrie et en Irak, des deux éléments djihadistes pour après créer le Daesh, et comme le passage, je qualifie de auto-djihadiste, était en deux sens, et ces djihadistes qui entraient en Syrie pour combattre dans les rangs de Daesh, rentraient par la même voie, et puis à leur pays d'où ils venaient, pour internationaliser le Daesh.
Alors, ça circulait dans les deux sens.
Voilà, c'est dans même l'internationalisation de Daesh est une conséquence, est une ramification de cette politique de renversement de régime qui était mise en place basée sur une fausse analyse et effectuée par des moyens inefficaces et incapables. Alors c'est pas seulement la faillite de cette politique de renversement de régime qui a causé la crise des réfugiés, mais le renversement de régime aussi aurait pu causer cette crise également.
Oui. Alors, Kadri Gussel, nous allons marquer
9h33 à Paris.
Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant à 7 jours d'actualité sur la planète avec la rédaction et notre invité, le journaliste turc Kadri Gürsel, auteur de Turquie année zéro, un livre coup de poing publié aux éditions du Cerf.
Une semaine d'actualité.
C'est l'Afrique qui va être à l'honneur dans quelques minutes après une courte séquence française marquée par la mise en examen du président du parti Les Républicains. La justice soupçonne Nicolas Sarkozy d'avoir sciemment dépassé le plafond des dépenses lors de sa campagne électorale de 2012. Écoutez deux réactions, celle d'abord de son avocat, maître Thierry Herzog.
Dois-je vous rappeler qu'être mis en examen n'empêche pas d'être candidat à l'élection présidentielle, car il y a la présomption d'innocence. Mais je vais vous dire une chose plus importante encore, avoir été condamné n'empêche pas d'être candidat à la primaire.
Alors, autre réaction pour le moins critique, celle du député des Républicains, pourtant Bernard Debray.
C'est pas tellement la mise en examen, c'est le problème qui me préoccupe, c'est le fait que ça va, bien entendu, dévaloriser un peu plus Nicolas Sarkozy, et qui n'avait peut-être pas besoin de ça pour descendre dans les sondages. Je considère que s'il avait, comment dirais-je, une vraie notion du service de l'État, il ne se présenterait pas. Je vois ce qu'il apporte, et je vois ce qu'il détruit. Il apporte certainement sa volonté de revanche, mais il détruit une certaine image de la politique.
L'actualité française, c'est aussi la promesse d'aide du gouvernement aux agriculteurs français frappés par la baisse des cours. À peine terminée la polémique sur la déchéance de la nationalité pour les terroristes, qu'un autre vif débat se profile, celui de la réforme du Code du travail. La polémique risque d'être grande aussi. Anis Al-Jabri.
Ultralibéral, dangereux, ça va être compris comme une agression contre notre électorat. L'avalanche de critiques contre le projet de loi El Khomri vient de toutes les tendances au PS. Martine Aubry, ulcérée par ce qui s'apparente à un détricotage en règle des 35 heures, prépare sa contre-attaque. L'exécutif, c'est son camp tellement vent debout contre le texte que les parlementaires sont prévenus, il n'hésitera pas à passer en force et à dégainer le 49-3. Tension, colère, mais aussi abattement à gauche. On ne comprend plus rien à ce que fait le président, disent les députés socialistes, tellement perdus qu'ils sont nombreux aujourd'hui à douter tout bas de sa candidature à sa réélection. Certains de ses proches ont même brisé le tabou, évoquent entre eux un échec de François Hollande. Les adversaires du président réfléchissent eux déjà à un candidat de substitution. Lui y croit toujours. C'est simple, confient quelques-uns de ses visiteurs du soir. Pour avoir toute l'attention de François Hollande, il suffit de prononcer le mot magique 2017. S'il ne reste qu'un à y croire, ce sera lui.
Sept jours en France.
Et sachez aussi qu'après de longs mois d'attente, des documents du ministère de la Défense vont être déclassifiés et devraient donc permettre d'en savoir plus sur les raisons de l'assassinat de nos amis Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés en 2013 à Kidal. Suite d'une semaine d'actualité, donc en compagnie du journaliste turc Kadri Gürsel pour son livre « Turquie, année zéro », qui est un livre, un petit livre, mais très incisif, hein, très très dense, dans lequel vous écrivez notamment ceci à propos du président Erdogan, donc Premier ministre devenu président en 2014. Vous parlez d'un homme portant les marques de l'hybris, la maladie du pouvoir, alliant l'hypertrophie de l'ego, l'autodétermination messianique, la perte du sens des réalités, l'intolérance à la contradiction et la folie des grandeurs. Fermez le banc.
Voilà, c'est à cause de ce caractère que la Turquie se trouve aujourd'hui dans un état de crise, car il n'accepte jamais la défaite. La défaite, c'est une institution dans les démocraties. Et on gagne, on perd, on quitte, on revient. C'est comme ça marche. Mais M. Erdogan est là pour ne pas perdre. Et comme il ne veut pas perdre le pouvoir, il exerce des politiques encore dangereuses pour regagner son pouvoir, comme, par exemple, il a fait commencer une guerre en Turquie avant les élections du 1er novembre, pour faire tomber les deux adversaires, kurdes et nationalistes turcs, en dessous du seuil électoral, pour pouvoir gagner une majorité absolue au Parlement, pour pouvoir aussi avancer son agenda constitutionnel pour une constitution qui lui offrira le régime qu'il rêve. C'est le régime qu'il rêve, c'est un régime autoritaire où il n'y aura plus de séparation de pouvoir, où il sera l'homme fort absolu. Ça, c'est une dictature.
Et vous soulignez même, Kadri Gürsel, dans ce livre, qu'il veut mettre fin à une parenthèse ouverte en 1923, donc avec Mustafa Kemal, la fin d'une période historique de la Turquie.
C'est ainsi que la république laïque de Turquie se finira par un changement de constitution. Si il réussit à avoir sa constitution sur mesure, la Turquie que vous connaissez, que nous connaissons, finira, et puis il y aura un régime, comme j'ai dit, un régime islamiste et autoritaire dans ce pays, qui sera basé sur un soutien populaire de la couche majoritaire qui est sunnite, conservatrice et nationaliste, alors que le changement démocratique dans cette équation ne sera plus possible dans ce pays. Il tente de faire ainsi pour sauvegarder son pouvoir personnel, mais aussi pour pouvoir sauvegarder le pouvoir de la mission islamiste en Turquie. Mais c'est une situation ingérable. C'est autodestructif.
Mais en tout cas, il a une obsession, c'est la lutte contre les Kurdes de Turquie et le PKK, les Kurdes de Syrie. Et cette semaine, par exemple, l'actualité, c'est le passage de 500 rebelles syriens par la Turquie pour aller combattre les Kurdes de Syrie.
Il n'a jamais eu sincère intention de résoudre la question kurde de la Turquie par la voie pacifique. Et aujourd'hui, s'il mène une guerre contre les Kurdes de la Turquie, contre le mouvement kurde de la Turquie, mais ainsi que contre les Kurdes de la Turquie, car cette guerre est en train de dévaster les villes entièrement en Turquie par l'usage des armes lourdes, alors il exporte la question kurde de la Turquie en dehors de la frontière.
Oui.
Voilà, donc comme ça, la Turquie de Erdogan devient une source d'instabilité pour la région. Et il ne veut pas qu'une tendance du PKK, voire les Kurdes de Syrie, obtient davantage de territoire en Turquie, car à la fin duquel la Turquie de Erdogan donc sera encerclée pas tout au long de la frontière.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a déjà un territoire kurde depuis la guerre du Golfe en Irak.
Presque la moitié de la frontière turco-syrienne, le côté syrien de la frontière est contrôlé par les Kurdes de Syrie.
Sauf que maintenant, il a Vladimir Poutine face à lui.
Et Vladimir Poutine savait très bien que pour la réussite de son intervention en Syrie, il fallait écarter la Turquie de Erdogan de l'équation. Et jusque-là, il a très bien joué ce jeu en tombant en piège Erdogan dans l'incident de l'avion russe qui avait été abattu le 24 novembre.
Oui.
C'est grâce à ça, c'est ce gambit russe. Maintenant, l'espace aérien de la Syrie est fermé à l'aviation turque.
Mais là, il y a un vrai risque de guerre.
Un vrai risque de guerre.
On peut dire de guerre entre les deux pays, entre la Russie et la Turquie.
Il y a maintenant une guerre froide entre la Turquie et la Russie qui peut se dégénérer en guerre chaude à tout moment. Car c'est les bombardements d'artillerie de la Turquie qui durent depuis 4-5 jours, ciblant les Kurdes de Syrie, qui avancent au détriment des djihadistes soutenus par Ankara. Ça, c'est un risque, déjà. C'est un risque de déflagration.
Une semaine d'actualité.
Kadri Gürsel, nous allons revenir en Turquie dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on passe par l'Afrique. Nous voyageons beaucoup dans cette émission. Et partir d'abord pour le Sénégal, où solennellement mardi, le président Macky Sall a décidé d'aller jusqu'au bout de son mandat de 7 ans. Correspondance de Guillaume Thibault.
Le secret a été gardé jusqu'au bout. Rien n'a fuité, ni à la présidence, ni dans la presse. Macky Sall a tenu à annoncer en personne que son mandat irait à son terme, c'est-à-dire jusqu'en 2019.
Sur l'application de la réduction au mandat en cours du président de la République, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée. J'entends me conformer à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence de quoi, le mandat en cours du président de la République connaîtra son terme en 2019.
Dans son allocution, Macky Sall a expliqué son choix, un choix juridique puisqu'il se doit de respecter la Constitution, précisément l'article 92 qui oblige toute autorité à respecter les décisions du Conseil constitutionnel.
L'article 92 de la Constitution m'y oblige. Je cite, « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public. Je ne saurais déroger à cette règle. »
Une explication juridique donc, à aucun moment durant les 10 minutes de son allocution, Macky Sall n'a évoqué sa promesse faite entre les deux tours de la présidentielle de 2012 de réduire son mandat en cours de 7 à 5 ans.
Partons maintenant pour la Guinée voisine qui connaît depuis plusieurs jours une forte contestation sociale avec des journées villes mortes dans plusieurs cités du pays. À Conakry mardi, Moktarba.
Trop, c'est trop. Tout le monde en a assez. Tout le monde en a marre. Nous vivons actuellement ce que nous n'avons jamais vécu.
Parole de Louis Mbemba Souma, le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, l'un des principaux animateurs du mouvement, largement suivi tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, qui a fait dire à un haut cadre de l'administration que la Guinée n'a jamais été aussi morne que ce lundi. Lorsque le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent pour accéder aux revendications des fonctionnaires, Mamadou Mansaré, le porte-parole des grévistes, se souvient.
Il y a quelques mois, le gouvernement guinéen nous a dit qu'il était capable à lui seul de financer les élections présidentielles. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelques mois, les caisses de l'État étaient pleines.
Louis Mbemba Souma accuse.
Où est passé l'argent? Nous savons. C'est la mauvaise gestion qui a conduit le gouvernement à cela. La gabégie et la malgouvernance. Ils n'ont qu'à prendre les responsabilités pour remettre les choses sur les rails.
Le porte-parole du gouvernement contre-attaque. Albert Damantan Camara.
Tous les concours extérieurs qui ont été annoncés, aucun d'entre eux n'est pratiquement arrivé en Guinée. Les investissements se sont arrêtés, nous avons perdu plus de 1000 milliards de recettes et l'année dernière, le syndicat nous a amené à prendre des mesures qui ont diminué de 20% les recettes de l'État sur le prix du carburant et qui a augmenté de 40% les salaires. Nous avons vécu 2 ans d'Ebola avec des effets qui sont parfois supérieurs à ceux qu'un pays en guerre aurait subi. Voilà ce qui a vidé les caisses de l'État ou voilà ce qui a fait que les caisses de l'État n'ont pas pu se remplir.
À suivre donc dans nos journaux et sur le site de RFI, bien entendu, comme toute l'actualité africaine en particulier. Demain dimanche, les électeurs nigériens vont élire leur président. Ces derniers jours, ces électeurs ont tout fait pour se procurer leur carte de vote, leur carte d'électeur précisément. Reportage de Marie-Pierre Olfan.
Je suis en train de chercher une carte. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à la retrouver.
Abdoulaye Atikou est chargé de distribuer les cartes aux électeurs du quartier de Yantalaba. Devant lui, une jeune femme qu'il doit finalement orienter vers un autre centre.
Vous connaissez les coins plats, hein ?
C'est juste ici, vers Dekouroum,
là. Oui. Okay. Donc vous partez là-bas.
D'accord.
Vous y allez tout de suite ?
Oui, je m'en vais comme ça. Je m'en vais chercher ça comme ça. Je tiens vraiment beaucoup à ça. Hein. C'est un geste vraiment de citoyenneté.
Les électeurs viennent au compte-gouttes dans ce bureau installé sous les arbres au pied d'une mosquée. Mais c'est une question d'heure, explique un représentant de parti politique.
Bon, comme c'est le matin, bon, il y a les femmes qui ont des préoccupations. Bon, les hommes aussi, le plus, ils vont au travail. Mais d'ici vers midi ou 14h, ils seront là.
Ici, près de 80% des cartes ont déjà été distribuées, mais il en reste encore 1300 qui n'ont pas été retirées. Moukaïla Haruna, le chef du quartier, est chargé de les mettre en sécurité le soir venu.
À la fin de la journée, ils recomptent les cartes, ils me remettent et je les garde jusqu'au lendemain.
Et vous les gardez où, chez vous ?
Je les garde chez moi, dans ma chambre, sous mon lit. Je le gardien du trésor.
Un trésor que les électeurs peuvent retirer jusqu'à vendredi, 18h. Après cela, les cartes ne seront plus disponibles. Ceux qui souhaitent voter pourront chercher leur bureau de vote sur le site internet de la Commission électorale nationale indépendante.
L'actualité africaine, ce sont aussi les élections en Ouganda et les résultats électoraux en Centrafrique. On vous en parle là aussi dans nos journaux.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Alpha Oumar. Bonjour RFI. J'invite le régime à nommer les cadres compétents pour nous sortir de la misère galopante en Guinée, écrit-il. Bonjour à Taïrou, à Mopti. Bonjour à Didier. Bonjour au club RFI de Kinshasa, à Alfred, à Bukavu. Un salut à Jonas, à Dakar, à Julie, à Paris et à Ange Moisette.
Une semaine d'actualité.
Et nous repartons pour la Turquie, Kadri Gürsel, après l'attentat de mardi à Ankara, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Le pouvoir accuse donc les Kurdes. Retrouvons Alexandre Billette hier à Istanbul.
Les autorités turques ont pointé très rapidement du doigt les Kurdes de Syrie et le PKK comme responsables de l'attentat d'Ankara en s'appuyant sur des informations des services de renseignement. Des accusations aussitôt dénoncées autant par le PYD, principale force kurde de Syrie, que par les rebelles du PKK. Une réaction foudroyante donc d'Ankara, ou alors de la précipitation, c'est ce que reproche entre autres l'opposition politique turque, qui dénonce les défaillances des services de renseignement et l'incurie du gouvernement, capable de retracer en quelques heures le pedigree des auteurs des derniers attentats à Istanbul et Ankara, mais incapable de les arrêter avant le passage à l'acte. Les services de renseignement qui avaient justement lancé l'alerte fin janvier dans un rapport qui mettait en garde contre l'imminence d'une attaque contre une cible militaire.
Alors il faut aussi noter dans l'actualité internationale le bombardement américain d'un camp en Libye, selon le New York Times. On en reparlera sans doute. Repartons en Turquie avec vous, Kadri Gürsel, pour ce livre, La Turquie année zéro. Les Kurdes, toujours les Kurdes.
Et c'est la question la plus importante de la Turquie en ce moment-là.
Le régime a vite accusé les Kurdes.
Regardez, il y a deux différentes réalités kurdes, en Syrie et en Turquie. La réalité kurde en Syrie ne fait pas la guerre avec la Turquie. Mais la réalité kurde en Turquie fait la guerre avec la Turquie. Donc il faut faire une distinction, même si ces deux réalités ont des points très importants en commun, comme l'idéologie, comme les origines, comme le leadership, comme les valeurs morales, etc. Et aussi des liens très étroits, organiques. Il y a des interactions très, très fortes entre ces deux réalités kurdes de Turquie et de Syrie. Mais les Kurdes de Syrie doivent être fous pour commettre un tel attentat à Ankara. Pourquoi faire? Pour inviter l'armée turque à envahir Syrie et à les écraser? Non, ouais, ils ne sont pas fous. C'est un acteur très, à mon avis, jusqu'à ce moment-là, le PYD a joué un rôle responsable. Et ils ont prouvé qu'ils étaient des acteurs rationnels. Quant à la réalité kurde de Turquie, ils avaient menacé plusieurs fois pour des représailles, pour des ripostes contre la dévastation du Sud-Est. Et comme un des leaders importants du mouvement, Cemil Bayık, a déclaré hier que des jeunes Kurdes mis en colère à cause de la dévastation des villes dans le Sud-Est, auraient pu faire un tel attentat. Mais eux, ils n'étaient pas responsables. Voilà, c'est un jeu, je crois, c'est un double jeu. Mais je pèse sur la piste kurde-turque. Les Kurdes de la Turquie, le mouvement kurde de la Turquie, très probablement se trouve derrière cet attentat, si ce n'est pas le Daesh, qui aussi peut être un autre acteur possible pour faire inviter l'armée turque en Syrie pour combattre ses ennemis aussi.
Mais là aussi, Kadri Gürsel, il faut noter que les relations s'étaient apaisées entre le pouvoir et les Kurdes de Turquie, avec l'AKP.
Oui, mais c'était une tactique. L'AKP n'a jamais été sincère pour résoudre la question kurde de la Turquie par la voie pacifique et politique. Ils ont joué ce jeu, tandis que ce jeu leur servait à leurs intérêts politiques. Mais comme on a vu dans le passé, cette année, tout d'un coup, on a vu une guerre qui se déclenchait. Et cette guerre aussi n'a pas pour but de résoudre la question kurde de la Turquie par la voie militaire. Cette guerre aussi est menée pour qu'elle serve aux intérêts
aux intérêts politiques du régime pour pouvoir avoir une constitution. C'est purement politique.
Alors, en tout cas, la période pour la Turquie est historique. Vous écrivez « Le spectre de la guerre à l'intérieur contre les Kurdes, l'ombre de la guerre à la frontière contre l'État islamique, le fantôme de la menace russe, les dangers se conjuguent et s'accumulent. »
Oui, la Turquie se trouve dans un état vraiment déplorable. Et il est presque complètement isolé.
Alors que vous le rappelez aussi dans le livre, et j'aime à le rappeler aussi, cette faillite spectaculaire qui emporte avec elle un pays qui constituait un modèle de modernité, de citoyenneté au sein de la région.
Et oui, c'était la République, les valeurs républicaines de la Turquie ancienne, qui alors prévoyait construire un État-nation basé sur la citoyenneté. Mais c'était un faux citoyenneté car ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché car turquiser les Kurdes, le projet de turquiser les Kurdes, ça n'a pas marché. Donc il nous fallait une nouvelle république, mais pas un régime islamiste autoritaire, hein, pour remplacer l'ancien république kémaliste. Et la Turquie islamiste, comme on voit aujourd'hui, pose des problèmes énormes pour la région et pour l'Europe aussi.
Pourtant, il faut souligner que l'AKP a été élu en 2002, réélu en 2007, en 2011, en 2015.
Oui, c'est un grand succès.
Le président, le Premier ministre Erdogan est devenu président en 2014. Il a toujours eu une légitimité des urnes.
Oui, et sa source de légitimité, c'est son succès dans les urnes. Et c'est un vrai succès. On ne peut pas dénier ça. Mais cette histoire de succès a pris sa fin en 7 juin 2015. Il a perdu les élections, mais il n'a pas accepté, comme on l'a dit déjà. Et donc, comme ça, la crise de démocratie en Turquie s'est approfondie par la réaction qu'il a donnée. Bon, à propos des Kurdes, comme ça, à l'époque, on a eu 9 élections en Turquie dans une atmosphère de paix avec les Kurdes. Donc, et ce mouvement islamiste n'a pas de souci de jouer la politique kurde. Donc, ils ont bien joué jusqu'à maintenant par des processus de paix, etc. Mais ils n'ont fait rien concrètement. Ils n'ont fait rien. Ils n'ont pas fait de réforme pour résoudre la question kurde de la Turquie, apporter une solution politique à cette question.
Et vous dites qu'avec Erdogan, c'est l'islam politique qui est en marche.
Oui, c'est l'islam politique, mais aussi c'est la faillite de l'islam politique qu'on voit aujourd'hui. C'est paradoxal. On voit aujourd'hui que le dit modèle de l'islam politique modéré en Turquie ne marche pas. Et c'est la faillite historique. Et comme ce modèle ne marche pas, ce modèle n'apporte aucune solution à des problèmes endémiques de la Turquie depuis un certain temps, comme la croissance économique, comme la question kurde, et comme la paix sociale.
Parce qu'il faut rappeler qu'avant 2011, avant les printemps arabes et le début de la guerre en Syrie, Erdogan voulait être le patron, le maître de la région, en fait, hein, créer une espèce de politique néo-ottomane pour dominer cette partie de la Méditerranée.
Il avait d'abord rêvé de remplir le vide créé par les régimes illégitimes dans le Moyen-Orient par une politique anti-israélienne et pro-palestinienne, notamment centrée sur Hamas. Mais quand le dit printemps arabe a commencé, la Syrie a soudainement changé son focus, et puis il a pu rêver un Méditerranée orientale de Tunis jusqu'à la Turquie, gouverné par des régimes islamistes de la tradition ikhwanite, frères musulmans, à la tête, à la parenté duquel serait Monsieur Erdogan, le plus fortuné et le plus expérimenté. Donc, mais le rêve s'est échoué quand le général Sisi a renversé Morsi en juillet 2013. Et c'était aussi une faillite de ce rêve, de cette politique messianique également.
Ouais. Alors, on va terminer avec une question plus personnelle. Kadri Gürsel, vous êtes journaliste. On sait que la Turquie est devenue, je dirais pas un enfer pour les journalistes, n'exagérons pas, mais enfin, on y est presque. Hein.
Enfer, il y a des enfers et des enfers, mais enfer, c'est pas une exagération, car il n'y a plus journalisme aujourd'hui, je n'exagère pas. L'agonie du journalisme, c'est presque même terminé.
Hein, vous écrivez « Être journaliste dans la Turquie d'aujourd'hui est une occupation désormais extrêmement difficile et périlleuse ».
Et oui, quand on veut être journaliste, déjà, on risque d'être mis à la porte. Voilà. Ouais, et puis, on ne fait désormais du journalisme dans la presse centrale, je vous assure, car le journalisme, c'est être critique, c'est chercher la vérité et dire la vérité. Mais comme il n'y a vraiment pas la liberté d'expression aussi, qui est en parallèle,
bien sûr,
c'est un déficit qui grandit en parallèle avec le déficit de la liberté de presse en Turquie. Et aujourd'hui, les télés sont sous le contrôle du régime, qui est la source principale d'information du peuple. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas tenir des élections équitables en Turquie, et même libres, il faut dire. Donc, le journalisme est en danger. Si ça va comme ça, je crois on va ressembler, la Turquie va ressembler à cet égard à des pays de l'ancien pays des rideaux de fer.
Merci Kadri Gürsel, votre livre Coup de poing, d'ailleurs il est édité dans une collection qui s'appelle Le Point sur la table, et c'est un véritable coup de poing, s'intitule ce livre Turquie année zéro, il est publié aux éditions du CERF. Merci d'être venu jusqu'ici.
Merci pour avoir invité, merci pour l'opportunité.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous vous proposerons une rediffusion d'un numéro que nous avons consacré à Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU qui nous a quitté mardi. Notre invité sera l'ambassadeur français Alain Dejamet, auteur d'une biographie du diplomate et professeur égyptien. Demain dimanche, 16h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal, bien sûr, sur RFI.